journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand la guerre déchire les familles, dans ce journal, l'histoire de trois sœurs. L'une vit à Kiev, les deux autres en Russie. Et le dialogue est devenu impossible. La Russie qui annonce ce matin l'ouverture de couloirs humanitaires pour les villes ukrainiennes assiégées au 12e jour de conflit. L'Europe tout entière s'inquiète pour sa sécurité. Nous serons en Suède où l'on préfère anticiper le pire des scénarios. Les habitants s'équipent en radio dynamo et pastilles d'iode. Tandis qu'en France, Éric Zemmour nuance sa position sur les réfugiés, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, des négociations internationales pour réguler la haute mer, vaste zone de non-droit. Et puis une deuxième médaille d'or française ce matin aux Jeux paralympiques d'hiver.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor.
France Inter.
Et Moscou promet donc une trêve humanitaire dans plusieurs villes ukrainiennes.
Elle doit commencer dans une demi-heure pour permettre, dit la Russie, d'évacuer les civils, notamment de Kharkiv, Kiev et Mariupol. On saura vite si cette annonce est suivie des faits. La prudence est de mise. Ce week-end, les précédentes tentatives d'évacuation ont toutes échoué. La capitale, notamment, voit l'étau se resserrer. Selon les autorités ukrainiennes, des forces russes accumulent des ressources avant un assaut sur Kiev. Kiev où Vanessa Descoureau a rencontré une jeune femme, membre d'une famille divisée, déchirée entre Ukraine et Russie. Trois sœurs qui ne se comprennent plus vraiment. Reportage.
La grande sœur d'Anna vit à Moscou, sa cadette à Anapa, dans le sud, quasiment en face de la Crimée. Anna, elle, est à Kiev, sa ville, son cœur, dit-elle, une frontière et désormais plus de contact entre les trois sœurs.
Je leur ai envoyé des informations, des photos, des liens, des vidéos. Elles me disaient seulement que c'était une situation temporaire, que tout ça finirait vite. Elles ne m'ont pas appelé au téléphone, mais maintenant, elles ne m'écrivent même plus.
Pour Anna, ces deux sœurs ne sont pas forcément plongées dans la propagande des médias russes. Elles savent très correctement s'informer, assure-t-elle, mais plutôt dans une forme de déni qui les pousse à se couper de toute émotion liée à ce conflit.
Elles ont besoin de temps pour comprendre ce qui se passe ici. Ce qui arrive à notre famille n'est pas exceptionnel, ce n'est pas que notre histoire. J'essaye de les comprendre. Parce que la situation est très douloureuse.
Les deux sœurs d'Anna sont sa seule famille restante. Les parents sont morts il y a plusieurs années. Les messages qui s'affichent en rafale sur son téléphone sont envoyés par ses nombreux amis qui lui conseillent tous de quitter sa capitale.
Vanessa Descoureau, Marc Garvenès, envoyé spécial de France Inter à Kiev. Plus à l'est, Kharkiv a subi de nouveaux bombardements cette nuit. Et tout au sud, au bord de la mer Noire, Odessa, ville portuaire stratégique d'1 million d'habitants, craint désormais d'être la prochaine sur la liste. Sans compter cette inquiétude persistante pour la sécurité des centrales nucléaires, l'AIEA se dit ce matin profondément préoccupée concernant Zaporijjia, la centrale bombardée vendredi dernier. Elle est depuis passée entièrement sous contrôle russe et les communications avec l'extérieur sont quasiment toutes coupées selon l'agence de l'énergie atomique. Cette guerre en Ukraine se déplace aujourd'hui devant la Cour internationale de justice de La Haye. Kiev l'a saisie en urgence pour exiger que la Russie cesse son invasion. Mais quelles que soient ses décisions, la Cour n'aura aucun moyen de les faire appliquer sur le terrain.
Et ce conflit rebat aussi les cartes ailleurs en Europe.
Face à la menace russe, on a beaucoup parlé du revirement historique de l'Allemagne sur ses dépenses militaires. Mais les pays nordiques aussi revoient profondément leur stratégie. Le Danemark annonce un référendum pour rejoindre la politique de défense de l'Union européenne. Et en Suède voisine, on prend la menace très au sérieux. Pas seulement les dirigeants, les Suédois eux-mêmes sont très très prévoyants. Frédéric Faux est à Stockholm.
Dans ce magasin de produits électriques du centre de Stockholm, William est en plein rush.
On vend des radios avec une dynamo, sans pile et sans branchement. Là, je n'en ai plus en stock à cause de la situation dans le monde. Les gens achètent aussi des batteries et des extincteurs.
Les Suédois se méfient de leurs voisins russes. Et dans cette période de tension avec Moscou, il y a un autre produit qui manque. Ce sont les pilules d'iode, qui protègent des effets des radiations en cas d'attaque nucléaire. Nour, dans sa pharmacie, n'en a plus.
Les gens ont peur. Ils veulent en avoir à la maison en cas d'attaque. Juste aujourd'hui, 10 personnes m'ont demandé ce produit.
Beaucoup de Suédois se renseignent aussi auprès du MSB, l'agence en charge de la protection civile, sur l'abri le plus proche qui pourrait les accueillir en cas de conflit. L'un des plus grands au monde est d'ailleurs en plein centre de Stockholm, sous la colline de Katarina Berget, et tout près de l'appartement de Björn.
C'est vraiment très grand, ça peut accueillir 20 000 personnes. On vit juste de l'autre côté où il y a deux grandes portes qui nous permettent de descendre. Pour moi, je suis en sécurité.
Des abris de ce type, il y en a 65 000 dans toute la Suède. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
La guerre et ses conséquences économiques affolent de nouveau les marchés. Ce matin, les bourses asiatiques ont plongé de 3%, plombées par les sanctions. La Russie voit aussi de nouvelles entreprises prendre leur distance, cette fois des géants de la tech. Netflix suspend complètement son service dans le pays, tandis que TikTok ne permet plus à ses utilisateurs russes de publier de nouvelles vidéos sur sa plateforme. Mais il n'y a pas que les grands groupes. La présence occidentale en Russie prend aussi une autre forme. Ses anciens ministres ou grands patrons européens présents dans les conseils d'administration d'entreprises proches du Kremlin. Évidemment, on pense à François Fillon, qui a fini par démissionner de ses mandats dans le secteur de la pétrochimie. Mais il est loin d'être un cas isolé, Fabien Cazot.
De l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi, à une ex-chancelière autrichienne, en passant par François Fillon et un de ses homologues finlandais, les personnalités politiques constituent des cibles de choix pour les grandes entreprises russes. En leur permettant de siéger dans leur conseil d'administration, elles achètent leur influence, explique Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS.
Concrètement, ça peut se manifester par exemple par un coup de fil à la bonne personne, au bon député, pour sensibiliser aux enjeux d'une loi qui dérange. Ça peut être inviter les bonnes personnes à déjeuner pour influencer le cours d'une action publique en faveur d'une entreprise.
Un pouvoir d'influence qui a, selon cette même chercheuse, de réelles retombées économiques.
On a réussi à montrer que les sociétés qui sont connectées politiquement, c'est comme ça qu'on les appelle, bénéficient d'une valorisation boursière plus importante que celles qui ne sont pas connectées. En fait, c'est là qu'on touche à du potentiel trafic d'influence. Mais ça, on peut y réfléchir collectivement. On devrait s'interroger sur les effets sur l'intérêt général de ce genre de pratique.
En Russie, les entreprises comptant au moins un ancien politique dans leur conseil d'administration pèsent pour 87% dans la valeur totale des entreprises cotées.
Fabien Cazot, en moins de deux semaines, ce conflit a déjà contraint plus d'1,5 million d'habitants à quitter l'Ukraine. C'est tout simplement la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En pleine campagne présidentielle française, Éric Zemmour disait la semaine dernière préférer qu'ils soient accueillis en Pologne, ces réfugiés, plutôt qu'en France. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques, y compris dans son propre camp. Alors en meeting hier à Toulon, le candidat a revu sa copie.
Je sais que ma position, une fois déformée et caricaturée, a pu interroger. D'abord, l'immense majorité des Ukrainiens veut aller dans les pays voisins de l'Ukraine. Alors le principe, c'est d'aider ces pays à ne pas chercher à déraciner des patriotes ukrainiens pour les faire venir en France, alors qu'ils préféreraient être en Pologne. Enfin, pour ceux des Ukrainiens qui préféreraient venir en France parce qu'ils y ont des attaches, parce qu'ils y ont de la famille, parce qu'ils sont francophones. Alors, il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent, uniquement dans les communes qui ont les moyens de les accueillir et la volonté de les recevoir dignement.
Éric Zemmour hier à Toulon, où il a aussi reçu officiellement le soutien de Marion Maréchal Le Pen. Pas encore de meeting pour Emmanuel Macron, mais le chef de l'État fera aujourd'hui son premier déplacement en tant que candidat à Poissy, dans les Yvelines. D'ailleurs, dans cette course à l'Élysée, seront-ils finalement 11 ou 12 sur la ligne de départ? Le Conseil constitutionnel dévoilera à midi la liste définitive de ces candidats. La seule incertitude concerne Philippe Poutou du NPA, qui affirme avoir obtenu ses 500 parrainages dans la dernière ligne droite. C'est un peu le Far West des océans. La haute mer recouvre deux tiers de la surface du globe. Elle n'appartient à personne et n'est quasiment pas réglementée. Alors des négociations s'ouvrent aujourd'hui pour deux semaines à l'ONU. Objectif, remettre un peu d'ordre dans tout cela avec un traité international. Mais ce n'est pas gagné, Célia Kiré.
D'un côté, il y a l'Union européenne, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, bien décidées à préserver l'océan, des États favorables à la création d'aires marines protégées, par exemple. Mais cela suppose de réguler certaines activités très lucratives, une pilule difficile à avaler pour certains pays qui vivent des ressources de la mer. Japon, Russie, Islande, Norvège, analyse Julien Rochette, expert à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Les activités comme le transport maritime, la pêche pourront être impactées, la recherche industrielle à travers les ressources marines génétiques devront être impactées. Mais l'idée, c'est effectivement dans cette négociation de trouver un équilibre entre ne pas trop les limiter, mais en même temps assurer quand même une garantie de protection de l'environnement. Donc tout ça est vraiment une idée de concilier les activités humaines avec les exigences de préservation du milieu marin.
Néanmoins, un consensus est indispensable pour les scientifiques et les ONG. La biodiversité présente dans la haute mer est très riche. Les discussions doivent durer encore 15 jours pour signer ce traité. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États à protéger d'urgence 30 à 50% de la surface de la Terre, océan compris. Pour limiter d'urgence le réchauffement, il en va de la survie de la planète.
Explication Célia Kiré.
7h40 et une deuxième médaille d'or ce matin aux Jeux paralympiques de Pékin.
On la doit à Cécile Hernandez en snowboard cross. Guillaume Batin a suivi sa performance.
Sa catégorie de handicap supprimée par les instances paralympiques, Cécile Hernandez a porté l'affaire en justice pour pouvoir quand même s'inscrire dans une autre catégorie et elle a gagné quelques jours avant Pékin.
J'ai su officiellement que je serai là une semaine avant que l'équipe de France prenne l'avion. J'ai rien lâché, même si on m'a encore fait des misères cette semaine où on voulait pas vraiment que je sois là encore et ce matin encore j'ai eu une réflexion dans la gate. Mais bon, je pense qu'ils ont eu peut-être tort un peu de réagir comme ça parce que ça m'a donné vachement de force.
C'est la 4e médaille paralympique de Cécile Hernandez, la plus chargée en émotions.
Je la dédie à ma maman parce que j'ai perdu ma maman juste avant de prendre le départ. Et les gens qui se battent aussi avec une sclérose en plaques parce que c'est quand même hyper important de montrer qu'on peut dépasser les barrières que la sclérose en plaques nous impose.
Cécile Hernandez souffre d'une sclérose en plaques depuis plus de 20 ans.
Cécile Hernandez, 2e médaille française donc aux Jeux paralympiques de Pékin.
Alexis Morel, merci. L'édito politique est assuré.